Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, une pépite française maintenant, l'un des fleurons de tout ce qui touche aux technologies de pointe. Alors qu'est-ce que c'est que les technologies de pointe? Eh bien, ce sont des technologies qui sont difficiles à répéter, à copier, des technologies qui sont intimement souvent liées à la sécurité, à la protection. Et ce soir, on est très heureux avec Frédéric, qui est toujours avec moi, Frédéric Simotel, de recevoir Raphaël Gorgé. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG donc de Exail Technologies, une très belle boîte qui voilà existe depuis plusieurs dizaines d'années. Vous êtes c'est une boîte qui a été créée par votre papa dans les années fin des années 30, je crois.
Alors non, ça serait un peu compliqué. Lui la reprise dans les années 90, mais effectivement la
société départ,
a ses
ça.
Origines dans il y a plus de 80 ans maintenant.
D'accord. Et alors c'est intéressant, vous allez nous raconter tout ça, mais vous avez pivoté à un moment précis. Et aujourd'hui, comment peut-on résumer ce que vous faites lorsque vous rencontrez des gens qui ne comprennent rien à votre business? Comment vous leur expliquez votre métier?
C'est depuis quelques mois beaucoup plus simple, puisqu'après l'acquisition récente réalisée en 2022 de la société XBlue, nous l'avons fusionnée avec notre société EK pour devenir Exail Technologies, et donc Groupe Gorgé s'appelle oui. Maintenant Exail Technologies, et concentré sur ses activités qui consistent à fournir à nos clients des drones, des robots, des systèmes de drones, ainsi que les capteurs, les composants qui nous permettent d'équiper ces drones. Donc ça va de la photonique, donc des fibres optiques, des modulateurs, jusqu'au système de navigation, au système de sonar, de positionnement que nous allons mettre dans ces drones et qui vont eux-mêmes être soit vendus à l'unité, soit vendus dans le cadre de systèmes de drones pour accomplir une mission globale.
Alors tout ça pour l'industrie et la défense, c'est ça?
Oui. Le chiffre d'affaires était réparti à peu près à 50-50 lors des derniers exercices. On anticipe, vu l'actualité, une montée un petit peu plus forte probablement des activités de défense. Mais on tient toujours à avoir cet équilibre puisqu'on développe des technologies qui s'appliquent dans les deux domaines.
Alors je vais donner la parole à Frédéric dans un instant, mais dans une minute vous allez nous parler de vos deux expérimentations avec à la fois un drone de surface et puis ce drone sous-marin que vous testez avec la DGA. Mais Fred,
Quand on développe là, ce type d'outils, on est bon dans le matériel, bon dans le logiciel. Enfin, comment vous équilibrez un peu justement les développements de ces deux univers?
Oui, les compétences sont tout à fait importantes dans l'ensemble des domaines. Il faut de la mécanique, du software, des capacités de développement en électronique, ouais. Évidemment. Et c'est la combinaison de tout ça. Par exemple, nos drones, donc pour ceux qui vont dans des grandes profondeurs, doivent avoir une capacité d'autonomie décisionnelle. Et donc, on utilise aussi de l'intelligence artificielle pour collecter un maximum de données et pour que l'objet soit capable de prendre les bonnes décisions en autonomie sur place.
Et tout ça, c'est les mêmes équipes. Hein. On reste au sein du groupe.
C'est des équipes différentes, c'est le cœur du métier de l'entreprise, de savoir connaître ses développements en autonomie, en intelligence artificielle.
Alors, parce que l'autonomie pour un drone, c'est parfois assez compliqué à expliquer, parce que quand on est en plus dans des grandes profondeurs, voilà, avec ces drones, hein, qui pour certains vont à plusieurs milliers de mètres de profondeur, on pense tout de suite à Titanic, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a ces robots qui explorent Titanic, et en haut, il y a un expert qui est là avec une grosse télécommande en quelque sorte. Donc là, ça, c'est pas un drone autonome, c'est quelqu'un qui pilote un drone à distance.
C'est ce qui s'appelle un ROV, c'est-à-dire un véhicule piloté à distance.
Alors que vous, c'est pas ça, c'est un drone.
On a également des véhicules qui sont pilotés à distance pour certains, mais le cœur du savoir-faire, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que le véhicule est capable de faire une mission sans aucune donnée envoyée par un opérateur. Donc c'est vrai.
Donc il n'est pas télécommandé.
Non. Il peut l'être parfois, soit par radio, soit par liaison, mais il a aussi sa capacité d'autonomie. Donc on peut le laisser faire sa mission tout seul, on lui donne une consigne qui peut être d'aller cartographier une zone en surface ou d'aller identifier un câble en grande profondeur et le suivre pour ensuite tout d'abord identifier si des éléments anormaux sont localisés sur ou proche de ce câble et ensuite prendre un certain nombre de décisions. Stationner sur cette zone intéressante, puis remonter avec les informations.
Qu'est-ce qui va faire que on va choisir plutôt vos équipements que d'autres? Qu'est-ce qui fait la spécificité justement de alors j'ai toujours envie de dire Groupe Gorgé parce que j'ai connu
c'est Exail.
Oui, c'est Exail maintenant, mais justement qu'est-ce qui va faire la spécificité de votre groupe aujourd'hui? Mais
dans certains cas, d'abord, nous sommes les seuls à avoir des solutions. Vous rappelez qu'on a gagné il y a 3 ans maintenant un contrat très important avec les marines belges et néerlandaises. Nous étions les seuls, parmi tous les concurrents mondiaux sollicités, à avoir l'ensemble du système de 6 drones différents qui vont collaborer entre eux pour accomplir la mission finale. Donc ça nous donne des avantages. C'est vrai qu'on développe ces produits depuis de très nombreuses années. Et dans d'autres cas, et c'est souvent ça l'argument clé, c'est la performance. Nous avons des produits performants, les meilleurs drones qui sont les plus performants parce que nous intégrons les meilleurs capteurs, développés à l'époque par XBlue. Et ces capteurs sont meilleurs, ces systèmes de positionnement sont meilleurs parce que nous les développons avec nos propres produits, souvent développés à partir de nos propres composants et même de nos propres produits initiaux tels que la fibre optique, les modulateurs.
Mais les composants électroniques qu'il y a dans vos robots, par exemple, c'est vous qui les fabriquez ou
Ça dépend lesquels.
On essaye de
ne pas réinventer quand les choses existent déjà. D'accord. Mais par contre, quand on parle de la performance du cœur du dispositif, oui, on développe nos propres fibres optiques, nos propres modulateurs, nos propres gyroscopes qui nous donnent nos propres centrales inertiennes qui font que nos robots sont plus précis, se positionnent mieux, ont une meilleure endurance.
250 personnes qui sont dédiées à la R&D.
Oui, un peu plus que ça, oui.
Un peu plus. Avec des centaines de brevets, bien évidemment. Oui. Fred.
Oui, sur la partie, justement, on parlait de composants. On a beaucoup parlé de pénurie de composants dans tout un tas de domaines, l'automobile. Est-ce que vous, le fait que vous soyez, que la production commence à augmenter, mais est-ce que vous avez été victime un peu de cet approvisionnement?
C'était une problématique en 2021-2022, ouais. qui a pas eu de conséquences sur les livraisons de chiffre d'affaires, mais par contre, qui a eu un petit impact sur notre bilan à l'époque. On a stocké un peu plus par anticipation pour être capable de livrer nos clients. Mais on a su faire face.
Aujourd'hui, alors on vous avait reçu au BFM Awards, c'était en novembre, en tant qu'entrepreneur de l'année. Et parmi les fiches de présentation, il y a aussi beaucoup l'intégration du RSE, enfin tout ce qui est développement durable. Et aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose d'important qui soit, la façon évidemment en termes le côté social, mais aussi le côté environnemental. Toute la construction de ces équipements aujourd'hui, enfin, vos clients vous demandent comment c'est conçu, de répondre à tout un tas de critères de développement durable. Ça se traduit aussi même dans vos équipements, les drones.
Ça se traduit à deux niveaux. Tout d'abord, la préoccupation au quotidien de l'entreprise d'être vigilant sur ses émissions carbone, mais aussi dans l'utilisation de nos propres produits qui permettent à des clients eux-mêmes d'avoir un impact plus limité sur l'environnement. J'en veux pour preuve qu'un de nos drones de surface, le Drix, qui est utilisé au départ beaucoup pour des applications dans les énergies marines renouvelables, l'hydrographie, etc., émet 100 fois moins de CO2 que le navire à équipage équivalent pour faire la même mission. Donc, en termes de consommation, émission de CO2, c'est des préoccupations qui sont au cœur de nos métiers.
Alors, présentez-nous justement ces deux innovations que vous testez actuellement. Alors, il y a cet exercice Digital Horizon, qui est dédié au déploiement de drones autonomes avec donc ce fameux Drix. Alors vous n'êtes pas les seuls dans cet exercice Digital Horizon. Je crois que vous êtes assez nombreux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Je crois que c'est organisé par la Marine US. Hein.
Oui, c'est la cinquième flotte américaine qui a organisé cet exercice où ils ont sélectionné une dizaine de drones de surface, donc des navires sans pilote pour faire des missions. Le Drix était le seul véhicule français et faisait partie des très faible nombre de drones étrangers non américains qui ont été évalués en fin d'année dernière pour évaluer les capacités d'utilisation de ces drones pour démultiplier les capacités de la flotte américaine pour surveiller une zone. Il faut savoir que l'idée qui est avancée dans ce programme, c'est de mettre dans la zone Moyen-Orient une centaine de drones en permanence, et ce, très rapidement. Et donc, on est extrêmement fiers d'avoir fait partie de cette première phase d'évaluation, qui sera sans doute suivie par une deuxième. L'idée étant de laisser en permanence des drones de surface, équipés de capteurs, de sonars, de radars, de
caméras.
Donc,
ce sont des navires, en quelque sorte, mais ils ont quelle taille, en fait? On arrive
Le nôtre, c'est 8 mètres.
Ah oui, c'est un bon bébé, quand même.
Une capacité de 14 nœuds. Et une autonomie qui va jusqu'à 10 jours en total.
Mais qui n'embarque aucun humain.
Aucun humain.
Voilà, donc de manière totalement autonome, il va aller scruter on va dire sa zone et détecter des présences, des choses comme ça. Exactement. Il remonte ces données en temps réel.
En temps réel.
Au QG en quelque sorte.
Au QG, soit en direct par liaison hertzienne, Wi-Fi, ou même à très grande distance, puisque un drone situé dans cette zone peut être opéré depuis la Ciotat. Par liaison satellitaire, donc oui.
Donc ça veut dire que s'il repère un incident ou quelque chose anormal, soit l'opérateur à distance, est-ce que lui-même est doté de cette intelligence qui lui dit, tiens, là il y a...
Il est capable d'identifier la différence entre un... une mouette et un navire hostile ou un objet flottant anormal. Oui, tout à fait, c'est le but. Et multiplier ces moyens de surveillance qui sont finalement peu coûteux au regard de navires est extrêmement efficace.
Et il est électrique, ce drone ?
Il est thermique.
Il est thermique,
c'est ça qui donne une très grande autonomie.
De 10 jours, bien sûr.
Et son hydrodynamisme fait qu'il consomme extrêmement peu.
Très bien. Bon, ben, espérons que vous puissiez être sélectionné, parce que là, c'est ça, en fait, c'est une espèce de compétition un peu cachée, finalement.
Tout à fait officielle. On évalue, effectivement, les différentes possibilités. Oui.
Est-ce que derrière, on peut... Là, on est dans un usage militaire. Est-ce que derrière, on peut imaginer d'autres usages plus civils de surveillance? Je pense toujours... j'étais allé à Toulon. Il y avait des tests qui devaient être faits pour la surveillance des sites olympiques, des sites de voile olympiques et tout ça.
Ça se rapprocherait encore de la défense. Ouais, mais le Drix, au départ, est conçu pour des applications civiles. Ouais. Donc, on va cartographier les champs marins avant d'installer des éoliennes. Mm-hmm. Une fois que ces éoliennes offshore seront installées, on va continuer à cartographier pour vérifier qu'il n'y a pas d'impact sur le biotope. On va s'assurer que les installations sous-marines sont toujours en place, n'ont pas été endommagées par des chaluts ou des tempêtes. Donc oui, énormément. On est en ce moment expérimenté par le centre de recherche océanographique américain qui est situé à Hawaï, qui nous a acheté deux Drix et qui est enchanté de la performance de ce véhicule.
Alors, autre innovation intéressante, c'est le... Là, c'est un drone, mais qui est sous-marin, c'est le A18, hein, qui a été choisi par la DGA pour opérer des fonds marins. Lui, il est associé à un navire, en quelque sorte, et il va plonger pour aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur pour explorer les fonds marins.
Tout à fait. Et c'est une problématique qui s'est trouvée accrue récemment. C'est ce qui s'appelle le seabed warfare, la surveillance des grands fonds. Et notamment, on imagine bien, on l'a vu récemment avec les gazoducs, mais plus généralement, toutes les installations sous-marines stratégiques.
Oui, la fibre optique, on peut imaginer, non ?
La fibre optique pour l'information, pour l'énergie. Il se trouve que des pays ennemis ont les capacités aujourd'hui de piéger ces installations stratégiques, y compris à très grande profondeur. Et donc, il faut absolument être capable d'aller surveiller que ces installations sont intactes, qu'elles ne sont pas menacées. Et pour ça, le meilleur moyen de faire de la surveillance à très grande échelle, sur des très grandes distances, puisqu'il y a 650 000 km de câbles sous-marins posés, il faut des robots. Toute autre option serait beaucoup trop coûteuse, et a fortiori des robots pilotés depuis la surface avec des navires. Donc il faut des robots autonomes sous-marins.
Et là, les usages sont dédiés à la défense exclusivement, ou comme pour le Drix, on peut imaginer que ces robots puissent détecter des coupures de certains câbles de fibre optique? Ça arrive de temps en temps. Hein,
quelle que soit l'origine de la coupure, il est important de pouvoir l'identifier, qu'elle soit accidentelle
ou malveillante.
Mais là aussi, on a des applications civiles, puisqu'on vient de livrer à l'IFREMER leur drone autonome capable d'aller à 6000 mètres, l'ULIX. Donc on est vraiment toujours sur des arbitrages technologie duale, civile et défense.
Très bien, passionnant. Fred, dernière question.
Recrutement, les ingénieurs, vous êtes comme beaucoup de gens, c'est compliqué à trouver.
Oui,
par les projets dont vous nous parlez, vous réussissez quand même.
Oui, mais avec l'avantage que l'on a d'être sur des projets qui sont extrêmement enthousiasmants. Mm-hmm. Donc on a ce petit plus quand même de secteur d'activité très attractif.
Qui nécessite une expertise hors du commun, j'imagine.
Oui. Alors on a la chance d'avoir des experts, et puis aussi on est un bon lieu de formation pour des jeunes ingénieurs qui veulent découvrir ces technologies.
Merci beaucoup, Raphaël Gorgé, pour ce moment intéressant de découverte, en fait, de cette belle société qui est donc Exail Technologies. Merci beaucoup, vous en êtes le PDG.
Merci.
Frédéric, on se retrouve dans quelques minutes. Tu reviens à 21h pour le débrief de l'Actu Tech avec Lucas Perraudin et Clément David. On reviendra sur l'actu. Et dans un instant, c'est l'Efo Eco, puisqu'il est déjà 20h30 quasiment. À tout de suite.